Merci Claude, l'équipe aussi. Ma prière à chaque fois que je partage les Écritures, c'est que Dieu me donne de pouvoir expliquer, de pouvoir exprimer ces Écritures le plus fidèlement possible. Et ma prière aussi va avec le fait que je prie que Dieu me donne de transmettre la joie qu'il y a à travers ce message-là. Mais que Dieu vous donne cette joie-là, un peu comme Claude vient de dire. Noël, c'est un temps agréable. Noël, c'est un temps qui est le fun parce qu'on peut avoir du temps en famille, on peut avoir ces repas que l'on a régulièrement, ce temps où on se souvient même en communauté ensemble de la nativité où Jésus est né. Noël est un temps de par tradition dans notre culture, un temps chéri, un temps qui est apprécié, où on prend le temps de s'arrêter. Et au-delà de la tradition, un peu comme Claude disait, on a besoin de revenir au sens profond. Les traditions sont une bonne chose. Les traditions sont une bonne chose, mais dans la mesure qu'on se souvient, c'est quoi que ça représente. Parce qu'avoir une tradition qu'on fait fois après fois, puis que finalement, on en perd le sens, il n'y a plus de sens réel à ce côté-là. Et de la nativité, pourquoi la nativité? Pourquoi est-ce que Jésus est venu nous visiter sur la terre? Pourquoi est-ce qu'on fête Noël? On pourrait avoir plusieurs réponses. Probablement, vous connaissez la réponse. Mais je vais prendre le temps qu'on se souvienne de ça ce matin. Et j'aimerais illustrer peut-être la réponse à travers pourquoi est-ce que Dieu nous a visités à travers une histoire bien connue depuis plusieurs années qui est la petite marchande d'allumettes. Est-ce que vous la connaissez? L'histoire d'origine, la marchande d'allumettes, je ne vais pas la raconter de long en large, mais elle avait un père qui ne prenait pas nécessairement soin d'elle. Elle était pratiquement orpheline parce que c'était sa grand-mère qui prenait soin d'elle. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait dans les rues pour vendre ses allumettes, une à une, à des marchands. Elle était elle-même la marchande et elle vendait ses allumettes aux passants. Cette journée-là, où elle essayait de vendre ses allumettes, c'était la journée, la veille du jour de l'an. Et les gens couraient sur un bord puis sur l'autre pour aller faire leurs affaires, aller faire leurs emplettes, aller rencontrer la visite, et ils prenaient plus jamais garde à cette petite fille qui était sur le bord de la rue puis essayait de vendre ses allumettes une à une pour ramener quelques sous, pour être capable de prendre soin d'elle. Puis à un moment donné, cette petite fillette-là, voyant que personne n'achetait ses allumettes, elle s'est placée sur le bord d'une maison, puis à l'abri du vent, elle a commencé à se protéger du vent, puis commencé à réfléchir. Ses pieds étaient gelés, ses mains étaient gelées, et là, elle s'est dit, peut-être si je prends une de ces allumettes que j'essaie de vendre, je me réchauffe les mains. Alors, elle prend une allumette, elle la craque, je ne le ferai pas maintenant, puis elle commence à se réchauffer les mains. Et pendant ce petit bonheur-là que cette allumette va lui créer pendant un instant, elle s'imagine près d'un poêle en train de se réchauffer les pieds, de se réchauffer les mains, d'avoir toute cette chaleur-là, et pouf, ça disparaît avec la flamme qui s'éteint. Elle prend une autre allumette, puis elle dit, je vais en prendre une deuxième. Ça m'a fait du bien, peut-être que je pourrais encore me réchauffer. Elle allume son allumette, et là, pendant que cette petite allumette-là lui réchauffe les mains, elle est en train de s'imaginer près d'une table, où il y a de la nourriture en abondance, où c'est chaud, puis pourtant, elle ne demande pas d'avoir toute la grosse dinde, elle demande juste peut-être d'avoir un bout de pain. Puis tout d'un coup, l'allumette s'éteint, puis elle revient à sa dure réalité. Et là, elle prend une autre allumette, et là, pour se réchauffer les mains, et pendant qu'elle allume cette allumette-là, elle est en train de vivre ses derniers moments de vie sur la terre, où elle est en train d'imaginer le temps qu'elle avait eu avec sa grand-mère, où elle était bien. Et finalement, elle est décédée dans la nuit, cette petite fillette-là, selon l'histoire qu'on connaît. Le lendemain, les passants, les gens la regardaient, puis ils avaient de la peine pour elle, étaient tristes pour elle de voir cette petite fillette-là qui était morte de froid, avec ses allumettes craquées autour d'elle, qui avaient servi en vain de la réchauffer. Il y avait d'autres passants qui se moquaient d'elle en disant, « Mais voyons donc, elle a essayé de se réchauffer avec des allumettes, puis ça n'a rien changé, évidemment, c'était ça qui allait la faire mourir, le froid. » Si on était des passants, puis on avait vu cette fillette-là, quel aurait été votre cœur? Quel aurait été mon cœur? Et d'emblée, si vous avez un cœur sensiblement au mien, vous auriez été touché par cette fillette-là. Vous auriez été touché, puis vous auriez, si vous aviez pris le temps d'arrêter puis de voir la misère de cette fillette-là, vous lui auriez peut-être acheté une allumette. Peut-être même que vous lui auriez apporté un petit déjeuner à cette fillette-là pour qu'elle puisse manger. Peut-être même que vous seriez retourné chez vous, aller chercher des mitaines puis des bottes, puis vous lui auriez apporté pour qu'elle puisse se réchauffer les mains. Aussi grand que notre cœur puisse être, puis qu'on aurait pu prendre soin d'elle, est-ce que ça aurait changé concrètement son sort? Non. Même si nos cœurs sont touchés par les enfants qui périssent dans le monde, qui meurent de froid comme cette fillette-là, ce qui peut changer concrètement sa vie, c'est qu'on prenne cette fillette-là, puis qu'on la fasse notre enfant. Puis qu'on dise, viens, je vais devenir ton papa. Tu vas manger à ma table. Tu vas vivre dans ma maison avec moi. Et Dieu, quand il nous voit, il nous voit comme cette fillette-là qui est sur le bord d'un bâtiment en train d'essayer de se réchauffer nos allumettes, qui nous crée des petits bonheurs éphémères sur la terre où on va s'allumer puis on va se dire « Ah, oh, je pense que je suis bien là pendant un instant. » Puis Dieu, quand il nous voit se chauffer avec nos allumettes, il est triste pour nous parce qu'il sait que c'est pas ça qui va changer le sort de nos vies. Même si Dieu veut faire le bien, Dieu, il y a des textes dans les Écritures qui montrent que Dieu est le dispensateur du bien. Dieu dispense le bien, même sur ceux qui ne sont pas ses enfants. Vous pourriez participer, par exemple, à la guignolée pour donner à des enfants, puis vous allez dispenser du bien aux enfants, même s'ils ne sont pas les vôtres. Mais leur sort va rester sensiblement le même s'il n'y a pas personne qui en prend soin concrètement et définitivement. Dieu dispense le bien sur toute l'humanité. Mais en fait, ce que Dieu veut, c'est adopter. Ce que Dieu veut, c'est adopter. Et Dieu dispense des allumettes. Dieu dispense, oui, il nous en achète des allumettes. Oui, il nous donne des petits bonheurs pendant la vie. Oui, il prend soin de nous. Mais ce que Dieu veut nous donner, c'est beaucoup plus que ça. Et je vais vous montrer ce que Dieu, moi, m'a donné, qui est beaucoup plus que des allumettes. Je ne vais pas tout enlever, là, inquiétez-vous pas. Dieu m'a donné les clés de la maison. Dieu m'a donné une place à sa table. Dieu m'a fait son enfant et Dieu est devenu mon papa parce qu'il m'a adopté. Avez-vous les clés de la maison? Avez-vous ces clés-là de la maison où que vous pouvez revenir à la maison puis voir Dieu puis dire « Papa » puis que votre vie est réellement changée parce qu'il vous a adopté? Ce matin, c'est ça qu'on va voir. Trois choses nécessaires à savoir pour qu'on puisse avoir cette place-là avec Dieu au ciel, pour qu'il puisse être notre papa dès à présent, que d'avoir beaucoup plus que des allumettes qui vont nous créer des petits bonheurs éphémères, mais d'avoir les clés de la maison du papa. J'aimerais qu'on prie, et après ça, on va ouvrir les Écritures ensemble. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu nous as tellement donné. Quand tu nous as visités, Seigneur, tu devais quitter, comme on disait tantôt, ton trône, laisser tes vêtements royaux pour que tu viennes nous visiter ici-bas en naissant dans une crèche. Et Seigneur, on croit que si tu es venu nous visiter, c'est parce que tu voulais nous donner la vie. C'est parce que tu voulais une relation avec nous. Tu voulais prendre soin de nous, tu veux nous adopter. On veut ouvrir ta parole, Seigneur, ce matin, et viens parler à nos cœurs. Viens te révéler à nous, Seigneur, que Noël prenne tout un sens différent si on ne te connaît pas ce matin. C'est en nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Trois choses nécessaires qu'il faut savoir. Dieu veut t'adopter, mais avant tout, est-ce que tu le sais que tu es orphelin? Des fois, on est tellement pris dans nos vies, on va tellement vite, puis on est tellement concentré sur peut-être nos allumettes qu'on cherche à vendre ou notre vie qu'on veut mener qu'on oublie que finalement on est orphelin puis qu'on est seul. Cette fillette-là pourrait passer par exemple par les fenêtres puis regarder ce qui se passe dans les foyers, voir le bonheur qui se passe ailleurs, mais elle ne le vit pas elle-même. Est-ce que tu réalises que tu es orphelin? Est-ce que tu réalises que tu es séparé de Dieu? Jamais je serai une assez bonne personne pour mériter une place à la table de Dieu. Je ne vendrai jamais assez d'allumettes pour que Dieu soit fier de moi et dire « Maintenant, tu as atteint ton quota, tu peux entrer dans ma maison. » jamais, je serai jamais assez bon pour rentrer au ciel. Et j'aime beaucoup un chant du Minuit chrétien qui révèle de belles vérités sur Dieu. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attend ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Attends ta délivrance. Est-ce que tu attends la délivrance? Est-ce que tu réalises que tu es orphelin? Est-ce que tu réalises que tu es séparé de Dieu? Tournez avec moi dans Éphésiens. Peut-être que c'est un passage que vous avez déjà entendu. Dieu veut t'adopter. Dieu veut que tu sois son enfant. Et il y a d'autres chants qu'on chante au temps de Noël qui parlent des enfants qui sont tous finalement des enfants de Dieu. Et malheureusement, ça, c'est une erreur. C'est faux. Ce que les Écritures nous disent, c'est qu'on est séparés de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on le devienne. Ce que Dieu veut, c'est t'adopter. Tu n'es pas un enfant de Dieu si tu n'as pas accueilli sa vie, si tu ne lui as pas donné la tienne. Tu es orphelin. Tu es séparé de Dieu. Et oui, tu peux avoir une relation avec lui. Oui, tu peux le rencontrer, mais sache que ça ne dépend pas de tes œuvres. Ça ne dépend pas de tes efforts. Ça ne dépend pas de tes capacités. Ça dépend de ce que Dieu a fait dans le sens de Noël, où il est venu nous visiter, où il est venu nous rencontrer. Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a donné son Fils pour que tu puisses avoir une relation avec lui. Dieu est venu te rencontrer parce que tu es orphelin. Habituellement, un orphelin, est-ce qu'il choisit ses parents et sa maison? Puis il dit, je m'en vais là, moi. Ça ne marche pas de même. C'est le Père Céleste qui est venu nous visiter et qui nous dit, vous êtes orphelin. Puis je veux vous accueillir à ma table. Je veux que vous soyez dans ma maison. C'est ça le don de Dieu. C'est ça que Dieu a fait. Et verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je peux rien faire pour mériter ça. On peut rien faire. Titre 3, 5, Dieu sauve non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Est-ce que je suis une bonne personne? Peut-être. Est-ce que c'est ça qui fait que je suis un enfant de Dieu? Non. Dieu veut m'adopter. Les Écritures nous disent, je veux juste vous lire quelques textes en rafale. Ce que je vous encourage à faire, si c'est la première fois que vous entendez ces textes-là, notez la référence. Vous pourrez les relire après ça. Prendre le temps d'y réfléchir dessus. Mais Romains 3, 10, il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Aussi bien que je peux être, ça ne sera pas ma justice qui fait que je vais pouvoir être adopté de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, Dieu veut nous adopter, mais il faut commencer par la première réalité qu'on est orphelin. On est séparé de lui. Et ça, le chant Minuit chrétien parle de la tâche originelle. Oui, on est pécheur par nature, puis je suis sûr que si vous y pensez un petit peu, qu'à un moment donné, vous avez fait un péché vous aussi. Me trompes-tu? Dites-moi les pas, là. Réfléchissez pour vous-même. Mais ça se peut-tu qu'à un moment donné, vous ayez fait le choix aussi de faire quelque chose que vous savez très bien que Dieu n'aurait pas accepté? Et si c'est le cas, vous êtes fait. Vous êtes fait, vous êtes séparés, vous êtes orphelins. Puis est-ce que Dieu, ce qu'il veut dans le fond, c'est dire à petite fillette, ben tu l'as mérité d'être là. Ouais, il n'y a pas personne qui pense de même. Si on a la compassion pour cette petite fillette-là, Dieu a la même compassion en nous regardant puis en nous voyant. Puis dire, je veux que tu sois avec moi dans ma maison. Je veux t'adopter. Il y a deux réalités importantes. Vous savez, il y a un sondage qui a été fait à travers le monde que 90 % des gens croient qu'il y a un ciel. 90 % des gens croient que, oui, il y a la maison de Dieu à quelque part où on peut être et être dans la félicité. Puis moins de 50 % croient qu'il y a un enfer. C'est deux réalités. Oui, les deux existent. Oui, le ciel existe, puis oui, l'enfer existe. Et notre destinée, si on demeure séparé de Dieu, c'est l'enfer. C'est plate de parler de ça à Noël, hein? C'est pour ça que Dieu est venu nous visiter. C'est pour ça que Dieu est venu te rencontrer. C'est pour ça que Dieu est venu ici pour t'adopter. Parce qu'il ne veut pas que tu y ailles en enfer. Mais la dure réalité, c'est que quand on est orphelin, qu'est-ce qui arrive? on va mourir comme ça dans notre misère, séparés de Dieu, et la condamnation de Dieu demeure sur nous. Dieu, il nous voit perdus, puis on est perdus. On est orphelins. Dieu veut que personne se perde, que personne aille en enfer, mais la réalité demeure, on est séparés de lui et destinés à l'enfer à cause de nos péchés. Un autre bout de texte que j'aime beaucoup dans le milieu chrétien dit « Puissant du jour, fier de votre grandeur. » Ça nous ressemble, hein? Eh ben, puissant du jour, fier de votre grandeur. Qu'est-ce que Dieu a fait? À votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. Parce que le roi des rois, il est bien plus qu'un puissant du jour, hein? C'est le Tout-Puissant de toute éternité qui s'est abaissé dans une humble crèche pour venir nous rencontrer, nous, fiers de notre grandeur, puissant du jour. Courbons nos fronts devant lui. Reconnaissons que s'il est même né dans une crèche, à la même image que les mages qui sont venus le rencontrer, se sont courbés devant lui, l'ont adoré, ont reconnu leur propre petitesse devant cet enfant-là qui naissait. Courbons nos fronts devant lui. On est séparés de Dieu. Le reconnais-tu? Dieu veut t'adopter. Et la première chose que tu dois savoir, c'est que tu es orphelin. Dieu veut t'adopter. Une deuxième chose qu'on doit savoir, c'est que Dieu a complété toutes les formalités d'adoption. Pour que tu sois adopté, il y a des formalités qu'il faut faire. Et Dieu les a fait. Dieu les a fait pour toi. Tu ne peux pas compléter ces formalités-là, c'est Dieu qui les a complétées. De notre foi que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant, comme autrefois une étoile brillante et conduisait les chefs d'Orient. Le Rédempteur a brisé toute entrave, je ne vous le chante pas, hein, vous comprenez là? Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Dieu est venu sur la terre pour nous donner accès à lui. Il a complété toute formalité pour que tu puisses avoir ces clés-là de la maison, pour que tu puisses le rencontrer, tu puisses être avec lui. Et ça, ça prend tout son sens dans l'incarnation. Est-ce que Dieu a un corps? Est-ce que Dieu est physique, il est charnel comme nous? Mais dans l'éternité passée, la réalité est que non, Dieu est esprit. Mais dans son amour, Dieu a envoyé son Fils pour qu'il prenne notre forme humaine, notre corps humain. Né d'une femme conçue par le Saint-Esprit, Dieu est venu prendre notre chair. C'est pour ça qu'on peut l'appeler notre frère, parce qu'il a pris notre corps. Dieu a pris le corps humain. Et tournez dans Matthieu 1. En venant sur la terre, Jésus a complété toute formalité pour qu'on puisse être adopté, pour qu'on puisse être ses enfants. Et c'est ça qui était annoncé, en fait, même à Joseph, de façon prophétique, de ce que Jésus allait faire. Regardez Matthieu 1, on va aller les versets 19 à 23. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, parce qu'il a, là, il a vu que Marie est enceinte, il ne lui comprend pas encore. Là. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Marie, elle était vierge quand elle a eu son enfant, parce que cet enfant-là venait du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple. De quoi? De ses péchés. Pourquoi Jésus est venu nous rencontrer? C'était-tu pour libérer le peuple d'une oppression romaine? Est-ce que Jésus, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est nous donner une paire de mitaines? Il veut nous libérer de ce qui nous empêche d'avoir accès à lui dans sa maison. Les péchés. Verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dieu avec nous. le roi des rois dans la basse-cour, sorti de sa maison et avec nous, sur le plancher des vaches. Dieu nous a rencontrés dans notre monde, dans notre misère. Verset 24, « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Si notre plus grand besoin avait été l'information, Dieu nous aurait envoyé un éducateur. Si notre plus grand besoin avait été la science ou la technologie, Dieu nous aurait envoyé un scientifique. Si notre plus grand besoin avait été l'argent, Dieu nous aurait envoyé un économiste. Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, Dieu nous aurait envoyé un animateur. Ou un humoriste. Il nous aurait envoyé Claude. Mais notre plus grand besoin, c'était le pardon. Puis Dieu nous a envoyé un sauveur. Jésus connaissait la science. Il était capable d'animer une foule. Il était capable de diriger les finances. Ce que Dieu voulait jouer comme rôle, c'était celui de sauveur auprès de nous, pour nous donner le pardon, nous sauver de nos péchés, ce que l'ange annonçait à Joseph. Dieu a accompli la promesse par l'incarnation. Quand Jésus est né, ça l'accomplissait une vieille promesse qui remonte, comme ce que le chant de Minuit Chrétien dit, au péché originel, à Adam et Ève. Déjà, quand Adam et Ève avaient péché, à ce moment-là, Dieu avait donné une promesse. Il avait parlé, en parlant à Satan, il a dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ça voulait dire quoi, cette promesse-là? Que Dieu allait susciter à travers la descendance de Marie, à la descendance de la femme, une postérité qui allait venir finalement écraser la tête du serpent. C'est qui cette personne-là? C'est Jésus. Hébreux 2:9, je vais juste vous le citer, nous dit, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous. » Jésus, quand il s'est incarné, il a pris la forme humaine dans le but de quoi? De livrer son corps en sacrifice pour nos vies, pour nos péchés. Et chacun d'entre nous, c'est nous autres qui devions mourir à cause de nos péchés. Mais Dieu veut nous adopter. Dieu veut nous prendre dans sa maison. Dieu veut qu'on soit avec lui. Et pour ça, il a complété toute démarche d'adoption en prenant un corps et en livrant sa vie. Et Hébreux 2:14 dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. » Si vous avez un enfant, probablement qu'il va naître avec un corps. C'est logique. Mais c'est ce que Jésus a fait. De la même façon qu'on participe au sang et à la chair, Jésus est venu participer au sang et à la chair. Il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est l'accomplissement de la promesse que je citais tantôt. La solution est en Jésus. Dieu t'a visité parce que tu es orphelin et il a complété toute démarche d'adoption pour que tu lui appartiennes. Dieu veut t'adopter, mais est-ce que tu reconnais que tu es orphelin? Dieu veut t'adopter, puis il a complété toutes les démarches d'adoption pour que tu puisses être son enfant. J'étais pécheur, puis la condamnation de mes péchés faisait en sorte que j'étais séparé de lui, mais il a pris ma place en mourant à ma place pour mes péchés. Et ça me donne accès à lui. Le ciel est ouvert maintenant. Mais la dernière chose qu'on doit savoir, puis que je veux vous poser comme question, Dieu veut t'adopter. Tu veux-tu devenir son enfant? Est-ce que tu veux devenir son enfant? Vous savez, c'est une décision réciproque. Dieu a tout fait pour que tu puisses être son enfant. Dieu voit notre misère. Dieu a tout complété pour qu'on puisse être ses enfants. Mais il reste ta part aussi à faire. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être son enfant? Dans Romains 10, versets 9 à 13, je vous invite à tourner avec moi. deux derniers passages que je vais vous faire lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu dois croire en lui. Tu fêtes Noël peut-être depuis des années, tu entends les chants de Noël qui parlent de Jésus pendant des années, jour de bonheur, jour de joie, un sauveur nous est né, mais est-ce que ça a du sens dans ta vie? Est-ce que tu y crois à ça quand tu chantes ça ou quand tu l'entends? Si tu entends le menu chrétien, crois-tu que ces paroles-là sont pour toi ou que c'est juste quelque chose qui s'est passé puis c'est bon pour les autres? Ici, la question qui t'est posée, c'est est-ce que toi tu y crois? Est-ce que ça prend racine dans ton cœur? Au point que tu dis, oui, c'est pour moi que Jésus est mort. Oui, c'est pour moi que Jésus est venu. Oui, c'est moi que Dieu a vu dans ma misère puis qui veut me sauver parce que je suis orphelin. Oui, Dieu veut me donner les clés de sa maison puis que je sois son papa. Verset 12, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qu'il l'invoque, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu cries à Dieu, si tu te tournes vers lui, Dieu est touché par notre misère. Dieu est touché par le fait qu'on est séparé de lui, qu'on n'a pas cette maison-là où on peut avoir une relation avec lui. Et si tu cries à lui, et tu crois en lui, puis tu confesses que tu crois en lui, Dieu va te sauver. Dieu va faire de toi son enfant. Je vais terminer avec un dernier passage dans Galates, juste un petit peu plus loin. Galates, chapitre 4. Une chose est sûre, c'est que Dieu, il t'aime. Puis Dieu est le dispensateur du bien. Tout don parfait. On avait commencé une mini-série dans Jacques, puis vous souvenez le verset? Tout don parfait vient de Dieu. Tout cadeau, toute bonté, toute bonne chose que l'on a dans nos vies vient de Dieu. Et Dieu va continuer de dispenser le bien sur vos vies, même si vous n'êtes pas son enfant. Dieu continue de vous aimer. Dieu continue de vouloir prendre soin de vous. Mais laissez-vous pas tromper par les petits moments de bonheur que vous pouvez avoir dans vos vies en disant « ça me suffit ». En disant « c'est correct, je trouve mon accomplissement dans le travail ». J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin que j'aille plus de bonheur que ça. J'ai tout là-dedans. Qu'est-ce qui arrive après un certain temps? Ce bonheur-là va finir que par s'éteindre à un moment donné. Si tu dis, j'ai pas nécessairement besoin de Dieu. J'ai tellement de bien. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai de l'argent suffisamment. J'ai une belle maison, une belle auto. Mes greniers sont bien remplis. Qu'est-ce qui arrive après un certain temps? Un petit coup de vent. Plus rien. Tout est parti en vapeur. Tu pourrais même dire, moi j'ai tellement de proches qui m'aiment. J'ai tellement de gens, d'enfants, puis j'ai tous mes proches, j'ai la santé. Tu sais, au jour de l'an, on va souhaiter la santé. Puis là, je vais l'avoir pour longtemps. Puis, oh boy, je suis devenu un petit peu malade. Puis là, c'était quelqu'un qui était en santé. Mais qu'est-ce qui se passe un jour ou l'autre? Vous allez la perdre, votre santé. Un point tel que vous allez souffrir d'une pathologie qui ne se guérit pas, qui s'appelle la mort. La mort, ça guérit pas. À moins que Dieu fasse une œuvre dans ta vie avant que tu meures. Réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que tu veux donner ta vie à Dieu? Laisse-toi pas tromper par ces petits moments-là où ce que tu es en train de geler, tu es orphelin, tu as besoin de Dieu, mais tu dis non, ça va, j'ai mes allumettes. Dieu va continuer de t'en acheter des allumettes. Dieu peut même te donner une paire de mitaines. Puis Dieu, il t'aime. C'est certain qu'il ne veut pas te voir souffrir comme ça. Mais ta vie, elle ne changera pas son cours si tu n'acceptes pas que Dieu te donne les clés de la maison. Papa, je vais revenir à la maison. Papa, je veux aller dans ta maison. Je veux manger à ta table. Je veux avoir cette place-là auprès de toi. Quoi qu'il arrive que mes allumettes s'éteignent une après l'autre, j'ai toujours ces clés-là de la maison que Dieu m'a données parce que j'ai une relation avec lui. Est-ce que tu as ces clés-là? Je te parle pas d'un billet magique. Je te parle pas d'un billet pour le ciel. Je te parle d'avoir accueilli sa vie, de lui donner ta vie aussi, de lui demander pardon pour tes péchés. Dieu t'aime, puis il veut t'adopter. Il veut que tu sois dans sa maison. Ça va être quoi ta réponse? Dans Galates 4, versets 4 à 7, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient sous la loi, ceux qui sont orphelins, dans le but que tu reçoives l'adoption. » Dieu est venu te visiter pour que tu reçoives l'adoption. Et puis si, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Papa, Abba Père, j'ai une relation maintenant avec Dieu, je suis devenu son enfant, j'ai un accès à lui, j'ai été adopté. Ainsi, tu n'es plus esclave, tu n'es plus perdu, tu n'es plus orphelin, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Est-ce que tu vas être un enfant de Dieu ce matin? Tu peux dire oui à Dieu ce matin. Donne l'occasion à Dieu de changer ta vie dans le sens réel de Noël, que Dieu est venu te visiter parce que tu es orphelin et avoir une relation avec toi. Tu peux faire une prière simple. J'aimerais qu'on se coupe, qu'on ferme nos yeux et que si tu ne connais pas Dieu personnellement, si Dieu n'est pas ton papa, tu pourrais faire cette prière-là dans ton cœur. Dieu, aujourd'hui, je viens d'entendre dans ta parole que tu m'as tellement aimé, que tu m'as vu de ton ciel, de ton trône, tu m'as vu dans ma misère. Puis Dieu, ça fait longtemps que tu me donnes tout le bien dans ma vie. C'est toi qui dispenses tout le bien dans ma vie. Mais je réalise aujourd'hui, Dieu, que je t'ai séparé de toi, que je suis orphelin, que je ne suis pas ton enfant. Et je crois aujourd'hui, Dieu, que si je finis dans cet état-là et que je meurs dans cet état-là, je vais demeurer pour toujours séparé de toi. Ce n'est pas ma volonté. Puis j'ai vu ce matin que ce n'est pas ta volonté non plus, Dieu. Tu as tout accompli pour ouvrir la porte, Seigneur, à toi. Tu as tout accompli pour avoir cette relation-là avec moi, comme un papa avec son enfant. Dieu, je crois que tu as envoyé ton fils Jésus pour qu'éventuellement il donne sa vie en sacrifice pour mes péchés. Parce que c'est moi qui méritais ça. C'était la juste rétribution à cause de mes péchés. C'est moi qui devais mourir. Et je te demande pardon, Dieu. J'accepte que Jésus prenne ma place pour que tu puisses me pardonner. Sauve-moi, fais de moi ton enfant. Oui, ma réponse ce matin à ta venue en venant me visiter sur la terre, c'est que je veux dire oui. Fais de moi ton enfant. Je veux avoir cette relation-là avec toi. Je veux pouvoir t'appeler papa. Je veux avoir plus que juste des allumettes qui s'éteignent constamment, mais je veux avoir les clés de la maison parce que je t'appartiens, parce que je suis fils, que je suis héritier. Amen. Ce matin, si tu as fait cette prière-là dans ton cœur, j'aimerais te lancer un défi, de venir m'en parler, d'en parler avec la personne peut-être avec qui tu es venu. Dis-le. On voyait le texte tantôt qui disait « Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus ». Dis-le à quelqu'un avec qui tu es venu. Viens me le raconter puis me dire « Ce matin, j'ai donné ma vie à Dieu. Ce matin, j'ai accepté de devenir l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu. » Et j'aimerais terminer par un dernier encouragement aussi pour nous les croyants qui pouvons dire « Oui, j'ai l'été de la maison ». Est-ce que tu y vas à la maison? Est-ce que tu entretiens cette relation-là constamment avec ton papa? Ou est-ce que tu peux dire, C'est vrai, ça fait longtemps. C'est vrai, il me semble que j'ai marché puis ça fait, je me suis éloigné de lui. As-tu oublié ce que Dieu t'a laissé à ton cou, qui est l'image que ce que je suis en train d'illustrer de cette relation-là, que l'Esprit dit dans ton cœur, « Abba, Père ». Peut-être que c'est le temps de revenir à Dieu puis de confesser des péchés, de confesser ta marche que tu l'as abandonnée pendant un certain temps, puis de dire, « Oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Oui, je veux entretenir encore cette relation-là entre toi et moi, parce que je suis ton enfant. »